Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle, l'heure du carillon, une émission préparée et animée par quelques chrétiens du Villefranchois. Donc autour de cette table, c'est notre petite équipe habituelle avec...
Michel Montbresseau.
Émilie, bonjour à tous.
Et Bernard Lauriac.
Et Didier, donc, qui va essayer d'animer cette émission sur une question un peu difficile. Vous vous souvenez peut-être, la dernière fois, pour Pâques, on avait abordé, un propos rapide, le problème du mal et de la souffrance. Et on s'est dit, tiens, ça vaudrait peut-être le coup d'y réfléchir et de faire une émission là-dessus. Mais pour commencer, j'ai envie de rappeler une phrase d'un vieux cardinal qui est décédé maintenant depuis longtemps, qui était le cardinal Villot, qui disait « Oh, ne parlez pas de la souffrance sans l'avoir connue. Ne dites pas aux prêtres de parler de la souffrance s'ils ne la connaissent pas. » Alors c'est vrai que tous dans notre vie, on connaît quelques souffrances, des grandes ou des petites, mais peut-être pas des souffrances assez profondes pour nous permettre de communier vraiment à l'autre. Alors on va aborder cette question du mal et de la souffrance. Et puis, elle était venue, cette question, parce qu'on s'est dit, mais pourquoi Dieu souffre-t-il? D'ailleurs, au début de l'Église, certains courants, quand on cherchait vraiment à connaître le Christ et à vivre de lui, certains courants s'opposaient un peu en disant « Oh, s'il était Dieu, il n'aurait pas souffert. Donc c'est un homme qui a pris l'aspect de Dieu. » Ou d'autres disaient « Ouais, il a fait semblant d'être homme. » Vous voyez, il y avait tous ces courants avant qu'on ne dise au IVe siècle « Il est vrai Dieu et vrai homme. » Et c'est parce qu'il est vrai homme qu'il a connu la souffrance. En effet, si notre Dieu nous crée et qu'il veuille nous rencontrer, on s'est bien aperçu pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament, et on abordera tout à l'heure quelques textes de l'Ancien Testament, on s'est bien aperçu pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament que l'homme ne connaissait pas Dieu, et que Dieu n'arrivait pas à se révéler à l'homme. Et c'est pour ça que nous croyons au Dieu de Jésus-Christ, et que Dieu a envoyé son Fils pour parler le langage des hommes, pour vivre la vie humaine, pour poser les gestes des hommes. Et c'est pour ça qu'on adhère à la personne du Christ. Et à partir de là, eh bien, comme tous les hommes, le Christ a été confronté à sa finitude. Il a été confronté au mal, à la souffrance. Souffrir, c'est la condition de tous les hommes. Alors on verra qu'elle n'est pas conséquence du péché ou des choses comme ça, des choses contre lesquelles le Christ s'est battu. Mais la souffrance de Dieu, c'est une communion à la vie des hommes. Voilà, on va, pour partager à plein la vie des hommes, eh bien, on sait que la souffrance est inéluctable et que donc elle appartient à cette vie des hommes. Et on n'aurait pas eu une réalité de ce Dieu qui vient prendre chair de notre chair, on n'aurait pas eu la même conception de ce Dieu, la même rencontre avec lui, s'il n'était pas passé par tout ce que connaissent les hommes. Voilà, donc on est sur CFM 90.2, et puis on est heureux donc d'être avec vous pour aborder cette question du mal et de la souffrance.
Alors, je retiens une phrase que tu viens de dire, c'est « la souffrance de Dieu est une communion à la vie de l'homme ».
Oui.
C'est quand même fort.
Oui, mais je crois. Tu connais, toi, des hommes qui ne souffrent pas?
Ah non.
Non, alors, mais plus
c'est,
ou moins.
Non, mais c'est ça le scandale. Comment se fait-il que la souffrance est là, alors que Dieu est amour et qu'il nous a voulu vivants? Pourquoi ce Dieu bon et tout puissant, peut-être je rentre trop dans le vif du sujet.
Oui, non, mais alors, il faut rentrer.
Justement, c'est le philosophe Paul Ricoeur qui soulignait cette contradiction. Puisque Dieu, on dit que Dieu est bon, qu'il est tout puissant, comment se fait-il que la souffrance et le mal existent? Ça ne devrait pas être. Ou il est puissant et il n'est pas bon, ou il est bon et il n'est pas puissant. Voilà ce que disait Paul Ricoeur.
C'est la grande question. Moi, dans ma croyance, c'est la seule chose qui me gêne.
Oui. Alors, ça fait interroger tout le monde. C'est le grand énigme. C'est une source de révolte qui parcourt toute l'histoire. Et je me rappelle que je commençais toujours mon enseignement d'histoire en disant « L'histoire est un long fleuve de sang. » Parce que la violence a marqué toute l'histoire. Et elle a marqué particulièrement le XXe siècle. Je voudrais quand même parler d'Auschwitz, d'Hiroshima, du Goulag.
Mais de Pol Pot, et puis de.
Du stalinisme,
et puis tout ça.
Rwanda.
Oui.
Il y a eu une extrême cruauté, perversion des hommes au XXe siècle qui ont fait que la confiance en Dieu et en l'homme ont posé question, en particulier aux écrivains. Je pense à Camus et à Dostoïevski qui ont écrit là-dessus parce qu'effectivement ça pose question.
C'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de philosophes comme Paul Ricoeur qui ont été complètement déstabilisés parce qu'ils se sont dit mais tant de haine, de violence, comment c'est possible? Ça les a drôlement déstabilisés.
C'est-à-dire, si je puis me permettre, c'est en contradiction avec la nature, avec tout ce que Dieu a créé. La nature, quelque chose de merveilleux, l'être humain, quelque chose de merveilleux. Il y a beaucoup de choses fantastiques autour de nous. On le vit tous les jours. Et puis, il y a cette souffrance-là qui...
Mais l'homme est autant capable de faire le bien que le mal. Et c'est lié à sa liberté. Dieu lui a donné la liberté de faire le bien et de faire le mal.
C'est-à-dire qu'on voudrait que Dieu soit tellement l'au-delà, le tout-puissant, ce qu'il est, mais tout-puissant d'amour. Et on sait bien que plus on aime, et chacun de nous peut l'exprimer, plus on aime, plus on est vulnérable. S'il est tout-puissant d'amour, il est très vulnérable. Et donc, il y a un auteur qui s'appelait Varillon, François Varillon, qui a écrit « La souffrance de Dieu ». Hein ? Mmh. Dieu souffre. Je vais prendre un exemple. Quand vous avez ceux qui sont parents, père ou mère de famille, quand on a un bébé, on le met dans le parc. Et bébé dans le parc ne souffre pas. Il a tout ce qui va bien. Il a les coussins qui vont bien pour pas se blesser, il a les jouets qui vont bien. Mais bébé n'a de cesse que de sortir du parc. De sortir du parc. Et aider bébé à grandir, c'est lui permettre de sortir du parc. Et c'est à ce moment-là, quand bébé sort du parc, qu'il commence à se blesser, à mettre ses doigts dans la prise de courant, à se brûler sur le poêle. Et quand ça arrive, on dit « méchants parents, ils ont sorti bébé du parc », ou pauvres parents, ils souffrent avec leur bébé. Voilà la vraie question, tu vois.
Et pourtant, il fallait bien qu'il en sorte.
Et pourtant, il fallait bien qu'il sorte du parc. Hein ? Alors, c'est qu'une analogie, ça ne vaut pas grand-chose. Mais
ça
c'est pour vous dire que voilà, je crois que Dieu souffre de notre souffrance. Et donc, comme il souffre de cette souffrance, mais qui est liée aussi, tu parlais de la création de la nature, mais la création à la nature, elle est obligée de passer par ce cycle de mort et de vie. Tout le temps. Et la mort, ce n'est jamais, jamais sans souffrance. Mais même dans la nature. Et donc l'homme rentre dans ce cycle de vie et de mort. Mais, bon, c'est pas le lieu, on en a parlé avec la résurrection. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants, c'est pour ça qu'il y a la résurrection. Mais c'est vrai que la question profonde que l'on se pose, c'est celle-là. Est-ce que Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire capable de tout décider, tout faire, tout seul et tout, sans considérer l'homme? Ou est-ce qu'il est tout puissant en amour, c'est-à-dire très vulnérable, comme tous les gens qui aiment?
Non, mais je crois qu'Amélie a dit quelque chose tout à l'heure d'intéressant. C'est que dans son amour, il nous a voulu libres.
Voilà, c'est ça.
Et la liberté fait que on dérape, quoi, qu'on fait ce qu'il ne faudrait pas pour ne pas tomber dans la souffrance.
Oui, parce
qu'on n'expliquera jamais toute la souffrance.
Non, de toute façon, la souffrance, ça reste un scandale. Le mal reste un scandale. Et alors, le plus grand danger, je le dis maintenant, j'avais prévu le dire un peu plus à la fin, le plus grand danger, ce serait de trouver un sens ou de chercher un sens à la souffrance. La souffrance est un non-sens. Elle est un non-sens.
C'est bien de dire ça.
Qu'il faut rejeter.
Hein, voilà. Ouais. La souffrance n'a pas de sens. C'est un non-sens. Hein.
Mais je crois qu'il faut aussi différencier entre le spectacle de la souffrance qui nous émeut, hein, et puis, quand on la ressort, quand on la ressent personnellement, physiquement, parce qu'il y a le mal moral et il y a le mal physique.
Oui.
Alors, moi, j'avoue que je suis un privilégié parce que j'ai pas trop souffert personnellement, mais j'ai vu la souffrance de près, en allant voir les gens en fin de vie, par exemple.
Oui.
Donc,
bien grand panel, hein, de souffrance et de oui, mots dans la, oui, entre les guerres, les attentats, les inondations, les maladies. Il y en a,
mais,
il y en a.
C'est peut-être, si vous voulez, nous on est là, on s'est dit, on fait cette émission comme chrétien, et donc on regarde la souffrance du Christ qui a tout connu de la vie humaine, même la souffrance. Alors, la souffrance du Christ, j'avais pas prévu le dire à ce moment de l'émission, mais ça fait rien puisqu'on y est, disons-le. Mmh. La souffrance du Christ, alors beaucoup s'émeuvent de sa souffrance physique. C'est vrai qu'il a connu une souffrance physique. Oui. Hein, il a été fouetté, on lui a mis une couronne d'épines, il a été crucifié, il est tombé sous le poids de la croix, il a été, et puis il a connu la mort avec un goût de l'encens. Enfin, toutes ces choses-là, c'est terrible. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui souffrent la même souffrance et même pire encore. Mmh. Tous ces hommes qui sont torturés, qui sont, et puis des hommes qui sont malades dans leur corps. Alors on parle de soins palliatifs ou de faire apaiser la souffrance. Il y en a beaucoup qui souffrent énormément. Mais le Christ, surtout, qu'est-ce qu'il a connu? C'est une souffrance morale. Et celle-là, elle est encore plus difficile à porter. Souffrance morale, qui était quoi? Qui était l'injustice. Pourquoi lui, le juste, on va... Mais tout à l'heure, on parlera du livre de Job, mais c'est aussi le mal, l'injuste, tu vois. Le juste qui souffre, pourquoi? L'abandon. Il est abandonné, il est trahi par ses copains. Il est abandonné par ses copains. L'agonie et l'angoisse, tu vois. La question... Le fait de vous sentir, mais est-ce que j'ai loupé ma mission ou pas? Tu vois, est-ce que ce que j'ai fait, ça sert à quelque chose? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon et l'angoisse, la moquerie et l'humiliation, la haine, tu vois. Voilà, tout cela, le Christ l'a vécu. Et cette souffrance-là, elle est terrible, terrible. Mmh. C'est la souffrance, justement, de cette perte de sens que l'on voulait donner à sa vie et pour lequel on se retrouve dans une impasse. Alors bien sûr, on sait que le psaume 21, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» débouche sur un cri d'espérance. N'en demeure pas moins qu'il est passé par là. Tu vois, toutes ces souffrances sont terribles. Alors, bien sûr, la souffrance physique, c'est pour ça qu'il faut sortir un peu de ces visages un peu sanguinolents, morbides, à la Scorsese, là, d'un Christ souffrant, hein, pour voir un Christ qui souffre, mais du cœur. C'est un blessé du cœur, le Christ, blessé du cœur et de l'esprit, de l'âme, profondément. Et ça, c'est terrible, tu vois. Et voilà, le Christ a connu cela de la condition humaine. Alors, écoutez, après ces mots un peu difficiles, parce que c'est un peu lourd également, on va écouter un brin de musique qui va nous amener en Amérique latine au temps des missions.
Thank you.
la souffrance, ce n'est pas une belle expérience. Tous ceux qui vous disent le contraire se trompent, ou alors ils ont une idée un peu mystique et complètement éthérée de la souffrance. Non, ce n'est pas une belle expérience.
On ne peut pas sublimer la souffrance,
tu dis. Non, non. On va en reparler après. Et parce que la souffrance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle isole, elle déprime, elle brise les forces de vie.
C'est vrai.
Parfois, elle pèse lourdement sur mon entourage. Elle me fait même parfois désirer d'en finir avec mes jours.
Elle rend agressif aussi.
Elle peut rendre agressif. En fait, toutes ces choses-là, où elle aliène complètement l'un ou l'autre. Mais cette souffrance-là, eh bien, depuis que les hommes sont hommes, ils se posent la question de ce scandale du mal, de ce non-sens de la souffrance. Et dans l'Ancien Testament, donc, il y a ce fameux livre de Job. Alors, on sait bien que c'est une parabole, parce que justement, cette histoire a été inventée pour faire comprendre le cheminement d'un homme qui aurait connu la souffrance injuste. Alors, Bernard a préparé des choses sur le livre de Job,
oui,
à partir d'un bouquin, voilà.
Voilà, donc j'ai lu un petit bouquin qui s'appelle « Le mal », tout simplement, qui est de Marcel Neuch. C'est paru aux éditions Le Centurion. Et il y a tout un chapitre sur le livre de Job. Parce que Job, c'est intéressant, c'est un peu la préfiguration de l'homme moderne. Job a été longtemps choyé par la fortune, et puis tout d'un coup, il est dévasté par le malheur, par la souffrance, par le mal. Donc, il est en butte avec ses amis. Eliphaz, Sophar, Dilbat, ses amis, pensent finalement que si le malheur le frappe, c'est qu'il est coupable. Le malheur ne frappe pas pour eux en aveugle. Il y a un péché dessous. Il a mérité son malheur.
C'est terrible de penser ça.
Eh oui.
Mais donc, au temps de Jésus, on le pensait aussi. Hein. On y reviendra voilà. Tout à l'heure. Oui.
Alors, ils incitent Job à faire son examen de conscience. Mais Job, il dit... il résiste à ses amis. Il dit... Mais... Où elle est ma culpabilité? Moi, je me sens innocent. Je m'indigne d'un Dieu qui m'envoie cette souffrance. Et il essaie donc de comprendre ce qui lui arrive, pourquoi Dieu est muet, pourquoi dans l'intolérable, Dieu ne lui dit rien. Alors, il essaie de comprendre un peu par la réflexion philosophique, mais finalement, c'est son expérience du mal qui le dévaste et qui dit, qu'est-ce que c'est que ce Dieu, tu le disais tout à l'heure, ce Dieu bon, ce Dieu tout-puissant, qui m'envoie cette souffrance. Et il dit, mais il n'y a pas que moi. Il y a une scission entre le bonheur et la vertu. Souvent, les méchants sont florissants et les vertueux condamnés au malheur. Comment expliquer ce monde qui a un défaut de fabrication? Pourquoi on est dans une situation pareille? Ah oui, il fait le procès carrément de Dieu.
Normal.
Il lui dit pourquoi me laisser naître si c'est pour me mettre dans cette situation.
Voilà, donc...
Mais il y a un dialogue, semble-t-il, quand même, entre...
Job
bon
et Dieu.
Oui, et puis
parce
aussi...
qu'il y a une réponse quand même un peu de Dieu. Une réponse qui ne nous satisfait pas complètement.
Mais parce que si tu veux, pourquoi? Alors déjà, le livre de Job, il y a quelque chose de très très bien. Il préfigure le Christ qui va combattre contre le mal. Si Job connaît tous ces assauts du mal... C'est parce que le diable, l'opposant à Dieu, fait un pari avec Dieu en disant si tu tortures cet homme, tu verras, il va te renier. Tu vois. Donc c'est un pari qui est lancé.
Tout à fait.
Et à la fin, on s'aperçoit que le mal est vaincu. le mal est vaincu et que ce tentateur, ce diable, celui qui s'oppose à Dieu, eh bien, une fois déjà, même avant le Christ, eh bien, il a pris la gamelle. Il n'a pas réussi.
Oui, mais enfin, ça fait passer Job pour une marionnette, autrement dit l'être humain.
Mais non, mais c'est une parabole. C'est une parabole. N'oublie pas qu'on cherche à dire des choses un peu importantes, et c'est difficile de les dire sans inventer ce texte et tout ça. Parce que le problème, il n'y a pas d'explication du mal, même dans le livre de Job. Mais il y a des lueurs et des éclaircies. Et les lueurs, les éclaircies, c'est l'espérance qui va naître en Job et qui va lui faire éclater son cercle d'auto-justification, d'auto-centrement sur lui. Mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Et Dieu, finalement, il répond à cette interrogation. Il appelle à la modestie. Il dit, le mal, c'est une énigme qui dépasse l'intelligence humaine. Mais le mal n'échappe pas à son pouvoir. Dieu est du côté de celui qui souffre. Et donc, il n'approuve pas du tout les amis de Job qui lui disaient « Fais ton examen de conscience, tu es responsable de ce qui t'arrive. » Non, non, non. Lui, il dit... il dévoile pas ses intentions, mais il dit « Moi, je suis aux côtés de ceux qui souffrent. Je suis dans la compassion. Et mon amitié va d'abord à ceux qui sont dans le malheur. » Donc, et je crois qu'on le comprend bien en voyant le Nouveau Testament avec Jésus qui va jusqu'au bout de la condition humaine, puisque, comme tu le disais, il est flagellé, il y a la couronne d'épines, on le soufflette, on se moque de lui, et il résiste. Donc, ce Christ, il nous donne un exemple de résistance. Il y a aussi autre chose qui m'a frappé dans le Nouveau Testament, c'est l'attitude de Paul. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas, et le bien que je veux, je ne le fais pas. Alors ça, c'est, on a tous vécu,
bien sûr,
on a tous vécu ça. Et ça pose un problème. Alors est-ce qu'il faut revenir à Adam, qui est la figure de l'humanité pécheresse, qui est l'antithèse du Christ? Jésus, lui, il vit sans tricher sur la condition humaine. Il s'engage dans la lutte contre le mal et il désigne les coupables, carrément. Hein.
Bien sûr. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, tu vois, c'est un peu un contre-jour, cette histoire. Je vais vous étonner. J'ai trouvé ça dans un livre aussi. Il n'y a d'ombre qu'à partir de la lumière. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Vous êtes bien d'accord avec moi?
Tout à fait, oui.
Le mal est un contre-jour. Autrement dit, s'il n'y avait pas le bien, comment saurions-nous qu'il y a le mal? Donc, il faut bien se dire que ce qui nous sauve, c'est que le bien est toujours plus grand. Et c'est lui, ce bien, qui révèle le mal. C'est ce que dit Paul, tu vois.
Hein, oui.
C'est ce bien qui révèle le mal. Le nôtre est celui du monde, tu vois. Voilà. Donc, et le Christ va s'attacher justement à révéler le bien, à regarder autrement les êtres, les choses et le monde, tu vois. Prendre le temps de s'émerveiller. Il va regarder pour essayer, d'à partir du bien, de transformer ce qu'il y a de mal. Tu voulais dire quelque chose?
Non, ça va, c'est... Ça s'est
échappé. Par contre, moi j'aimerais bien, puisque tu as place là. Moi, ce qui me plaît dans le texte de Job, là, c'est qu'on voit un Seigneur miséricordieux, effectivement, le bien qui vainc le mal, et puis on voit un Dieu qui n'est pas comptable. Et non. Ça, c'est très important. Chez Job, on voit que le Dieu n'est pas comptable, ça n'a rien à voir avec ça. Et là, je ne veux pas faire... un questionnement sur la réincarnation, mais moi c'est ce qui me fait, qui lorsqu'on parle avec des gens qui croient à la réincarnation, et chacun pense ce qu'il veut, c'est ça la différence entre pour moi la chrétienté et la réincarnation, c'est que là, avec la réincarnation qu'on peut comprendre, on peut y croire, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a quand même un système implacable de comptabilité, alors que avec le Seigneur Jésus, eh bien, il y a la miséricorde, il y a toujours le pardon derrière, ça n'a rien à voir. Et avec Job, oui. Ça ressort très bien.
Il y a un autre texte dans l'Évangile qui m'a frappé, c'est qu'on pose la question à Jésus du malheur innocent, avec l'aveugle né. Hein, et aussi, il y a aussi l'histoire des 18 Galiléens victimes de l'effondrement de la tour de Siloé.
Hein, alors, à qui la faute là ?
Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est eux ou leurs parents qui ont péché ?
Voilà, parce qu'on était dans la rétribution à l'époque, dans l'Ancien Testament, avant Jésus. Le mal arrive à ceux qui ont péché. Et les justes...
Mais on l'attendait parce qu'on était jeune, Bernard, ça. Que le
c'est moi, on m'a jamais
expliqué ça. Espie des péchés. Moi, j'ai entendu des trucs qui m'ont perturbé.
Mais tu es un curé un peu bizarre, là, quand même, non?
Je n'avais pas que le mien. Hein. Non, mais moi, je voyais que tout était interdit. Il y avait beaucoup de... on n'était pas épanoui par ces interdictions qui ne finissaient pas. Et moi, j'ai entendu ça. Tu expies tes péchés quand tu souffres ou autre histoire de ce genre. Moi, ça m'avait.
Face au malheur innocent, l'aveugle né, il est pour rien, le pauvre bougre.
Mais bien entendu, non, mais tout ça, ça a quand même été très malé par la religion, ça.
Malheureusement, ce genre de théorie, on court même aujourd'hui, parce que tu as entendu dire à propos de certaines maladies, et pour ne pas la citer, le sida, s'ils n'étaient pas pêcheurs, ils n'auraient pas chopé le sida, tu vois.
C'est un scandale.
Alors je trouve que c'est des choses quand même qui sont un peu scandaleuses.
On a une expression qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tu vois, c'est une expression qui
est... de ces
histoires-là. Oui, qu'est-ce que j'ai fait ?
On le dit encore, ça.
Alors que ça n'a strictement rien à voir.
Non, mais si tu veux, on a été marqué par ça, parce qu'on est toujours face à un mystère qui nous dépasse, qui nous enveloppe et qui nous dépasse, et on veut toujours le rationaliser, lui trouver un mot, lui trouver quelque chose à dire.
Il faut éviter quand même de culpabiliser les gens, c'est très important. On l'a été, nous, dans notre jeunesse, et il est important... que ça ne revienne pas, ça ne se fait plus maintenant, Dieu merci.
On va revenir à tout ça, mais d'abord on va écouter un petit peu de musique pour apaiser, pour soulager nos souffrances. Voilà, donc, vous le savez, autour de cette table, avec nous, il y a Émilie, dont le métier est d'apaiser les souffrances, puisqu'elle est infirmière. Et on voulait regarder, hier, quand on a préparé un petit peu avec Émilie, on voulait regarder un petit peu la manière dont le Christ se situe dans sa souffrance et par rapport aux souffrants, justement. La question est de se dire, est-ce qu'on peut humaniser la souffrance? Et c'est peut-être le seul moyen d'essayer d'en sortir. Alors, aussi bien en regardant le Christ qu'en regardant ton boulot quotidien, hein, humaniser la souffrance. Voilà, je te laisse la parole.
C'est vrai que dans la vie du Christ, dans sa vie publique, on voit tout le temps, il a cherché à soulager les malades et toutes les personnes qui souffraient. Il regardait pas la condition de la personne ou ce qu'elle avait fait de bien, ce qu'elle avait fait de mal. Il luttait. Toute sa vie, ça a été de lutter contre la souffrance et de s'approcher des gens qui avaient des douleurs, des infirmités, et tout le temps près de...
Dieu
est acteur. Il s'est montré très, très... Il a fait preuve de beaucoup de compassion, de miséricorde. Oui. Et c'est vrai que c'est touchant dans son ministère, ce côté de son action. Et je me dis, en fait... voilà, quand je fais le rapprochement avec mon travail, je me dis, ben voilà, il faut, en tant que soignant, on remplit de notre présence la souffrance des patients. Et il y a une phrase de Paul Claudel que j'aime beaucoup, je vais la citer. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Et ça, je trouve que c'est merveilleux.
Oui. C'est vrai que si on adresse à l'homme souffrant ou à la femme souffrante un discours clé en main sur les bonnes raisons, et entre autres sur Dieu, un discours clé en main en disant voilà Dieu machin et tout, on peut pas le rejoindre. On peut rejoindre quelqu'un quand on est proche de lui dans la compassion, dans l'accompagnement, justement dans le sens de humaniser sa vie de plus en plus, tu vois. De plus en plus. Il y a eu tellement de fausses théories qui couraient sur la souffrance, vous voyez. La souffrance n'est pas rédemptrice, hein. C'est pas vrai. Elle aliène, hein. Elle n'est pas libératrice.
Pas du tout, non.
La souffrance est déshumanisante. Car au contraire, loin de libérer, eh bien, elle enferme l'homme. Elle ne fait donc pas plaisir à Dieu. Ce qui plaît au Créateur, c'est que l'homme devienne de plus en plus humain. Et l'homme qui souffre aussi, qu'il soit humanisé et qu'il soit pas uniquement traité comme un produit d'expérience ou de laboratoire avec tout un tas de médications, mais qu'il soit reconnu dans son intégrité et dans sa souffrance.
Autrement dit, il nous demande d'agir.
Exactement.
Et de libérer les gens de toutes les injustices, et les progrès de la médecine vont dans le sens de lutter contre la maladie. On a fait quand même des progrès énormes.
Contre la maladie et contre la souffrance.
Et dans le traitement de la douleur.
Et dans le traitement de la douleur.
Parce qu'autrefois, les gens, ils souffraient, mais c'était normal qu'ils souffrent, qu'ils endurent des souffrances.
Ouais. Bon, moi, il me fait une question, c'est de dire, alors, faut-il penser de la souffrance de Marthe Robin, par exemple?
Alors, explique-nous, Michel.
Marthe Robin, c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Elle est arrivée finalement à pendant 50 ans à ne pas manger, ne pas boire. Elle ne recevait que l'hostie. Et c'est quand même, ce n'était pas une thaumaturge, mais c'était quand même quelqu'un qui a conseillé de grands hommes spirituels de notre temps. Elle est morte là dans les années 80-83, je crois, en 1983. Et cette personne est quelqu'un qui a été visité et étudié par le corps médical, et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé pour qu'elle puisse vivre seulement avec l'hostie du Christ et puis tout ce qui en a suivi.
Alors, si tu veux, ça fait partie de ce mystère des grands mystiques que l'on ne peut pas expliquer. Bon, il y a des choses en cours maintenant pour sa béatification éventuelle ou quoi, et c'est pas si simple. Alors, moi, je ne veux pas trop rentrer dans ce discours. Et voilà. Parce que humaniser la souffrance, c'est essayer de renouer avec les autres et avec Dieu. Chaque fois que je suis en lien avec quelqu'un, même au cœur de ma souffrance, eh bien, j'humanise cette souffrance, ou que quelqu'un est en lien avec moi, ou avec Dieu. Voilà. Humaniser la souffrance, c'est ça. Et c'est essayer de rétablir un bout de lien qui a été cassé par la douleur. qui a été cassé par la douleur. C'est cela le combat pour lutter contre la souffrance. Et là, ce qui est rédempteur, ce n'est pas la souffrance, mais c'est la tentative, c'est le combat que l'on mène pour sortir de la souffrance. C'est ça qui est rédempteur. C'est ça qui nous sauve. Seule une présence chaleureuse de personnes, bien portante, attentive à ce que vivent les malades, peut permettre d'humaniser cette souffrance. Et ça, c'est tout le rôle merveilleux des soignants et des accompagnants. Et c'est un rôle difficile, parce que eux aussi doivent parfois passer sur leur propre souffrance pour aller à la rencontre de la souffrance de l'autre. Enfin, je dis
tout
ça.
À fait, oui, il faut être dans l'empathie, mais il faut pouvoir la gérer aussi, la souffrance de l'autre. Il ne faut pas qu'elle soit trop envahissante, qu'elle nous détruise non plus, hein.
Oui, comment se protéger alors?
Mais bon, c'est pas toujours facile, mais il faut pas être
d'amour,
fou. Voilà,
ben, beaucoup de compréhension, d'intelligence.
Oui, je crois. Moi ce que je t'avais proposé, Michel, maintenant, c'est de prendre un psaume. Alors, vous savez, les psaumes, ce sont des prières de l'Ancien Testament qui ont été reprises par le Christ, et un psaume qui parle de la souffrance. Alors, on va écouter ce psaume, et puis après, je t'ai donné un texte aussi, qui n'est pas de moi, hein, que j'ai trouvé, qui est un texte qui dit les mêmes choses que le psaume, mais dans un langage plus moderne, et en faisant référence au Christ. Donc on écoute ces deux textes et on terminera juste, sans autre commentaire, par l'écoute de ce chant de psaume sur un disque. Voilà, alors je te laisse, Michel. C'est le psaume 12. Voilà.
Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Regarde. Réponds-moi, Seigneur mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire, que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Avec Jésus, ton serviteur souffrant, nous crions vers toi, Seigneur notre Dieu. Ne nous oublie pas plus longtemps. Nous te redisons notre confiance. Nous sommes sûrs de ton amour. Avec ton Fils Jésus endormi dans la mort, nous te prions pour tous ceux qui ont trouvé la mort dans la maladie ou dans leur combat pour un monde plus juste et fraternel. Nous espérons contre toute espérance. Nous sommes sûrs de ton salut. Avec le ressuscité victorieux de la mort, nous chantons toutes les merveilles que tu as faites pour lui comme pour nous. Avec lui, nous sommes ressuscités dans la lumière. Nous sommes sûrs de ta victoire.
Et nous écoutons le disque, le psaume 12.
Thank you.
Voilà, donc on reprend pour la dernière partie de cette émission. Je disais, et je maintiens, et j'affirme contre, par rapport à tous ceux qui nous écoutent, que la souffrance est un non-sens. Et qu'il y a eu des beaux discours et des théories, mais tout à fait aliénantes, morbides, fausses sur la souffrance. Je m'appuie là-dessus sur un livre d'un prêtre qui est décédé maintenant, qui était un théologien moraliste, qui s'appelait Xavier Thévenot, et qui, lui, avait la sclérose en plaques. Alors, quand il parlait de la souffrance, il savait un peu de quoi il causait. Et il disait, il faut en finir avec les beaux discours, les belles théories sur la souffrance. Par exemple, Dieu éprouve spécialement ceux qu'il aime. Ah, tu vois. Alors, quand on a entendu des choses comme ça...
Et ça, c'est révoltant.
Oui, Dieu éprouve... Mais on l'a entendu, tu l'as entendu, toi.
Oui, je l'ai entendu.
Réjouis-toi parce que tes souffrances servent à sauver le monde. C'est pas vrai, celui qui sauve le monde, c'est Jésus-Christ. C'est pas toi, hein, tu vois. Ou alors, tu ajoutes tes souffrances à celles du Christ pour sauver le monde, tu vois, c'était le même truc. Offre tes souffrances à Dieu, qu'est-ce que tu veux offrir, quelque chose? T'es en bonne disposition pour offrir quelque chose quand tu souffres? Voilà, ça, on a maintenu les gens dans ces dispositions complètement aliénantes, écrasantes, alors que la souffrance, le seul moyen, la souffrance, je le répète, c'est pas... une belle expérience. Il faut humaniser notre souffrance. Et alors, quels sont les moyens pour essayer d'humaniser cette souffrance et de mener le combat? La souffrance fait régresser. On le sait. La souffrance fait régresser. Alors, que tu vives une expérience spirituelle à travers la souffrance, pourquoi pas? Mais elle fait régresser. Donc, la première chose, il faut essayer de se décentrer. De se décentrer. Quand on dit... Quand quelqu'un fait une grosse déprime... Ça commence souvent par dire « Oh, mais on me comprend plus. On me comprend plus. Voilà. On m'ignore. On me comprend plus. » Mais quand on fait une déprime, on est soi-même étranger à soi-même. Si je suis étranger à moi-même, comment ne serais-je pas étranger et étrange aux autres, hein, pour commencer. Donc, on me comprend plus. Donc, il faut se décentrer. Et se décentrer, je ne peux pas le faire tout seul. Je peux pas le faire tout seul. Donc il faut que j'ai l'humilité d'être accompagné. Alors ça peut être sur le plan médical, chimique, sur le plan de l'entretien spirituel, sur le plan, sur tous les plans. J'ai besoin de me décentrer et d'être accompagné. C'est-à-dire que avoir le courage d'aller vers l'autre ou d'accueillir l'autre qui vient vers soi, tu vois. Aller vers l'autre pour lui dire, tu sais, je touche le fond, j'ai besoin de toi. C'est la présence d'un ami. Et bien sûr, Dieu peut être cet ami. Le Christ peut être cet ami à nos côtés. Hein? C'est à tel point que, et c'est là où on peut trouver, si vous voulez, un combat à mener contre la souffrance, regardez le Christ en croix. Le Christ en croix, eh bien, son combat lui a permis de dépasser la souffrance et d'être un vivant pour toujours et de nous entraîner à cette vie. Et d'aller... jusqu'au pardon, de l'ignominie. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez? Toujours se tourner vers l'autre et mener le combat vers l'autre. Hein? Voilà. Comme tout homme souffrant, le Christ s'est senti abandonné. Il a eu peur. Il s'est vidé de ses évidences. Et chaque homme souffrant peut se reconnaître en lui. C'est ce que je vous disais au début. Le Christ a tout connu de la condition humaine jusqu'à cette aberration de la souffrance. Voilà. Il y a aussi une autre chose aussi, c'est que, et c'est pour ça que je reviens aussi à cette phrase du cardinal que je citais au début, hein, c'est celui qui a souffert qui peut avoir un plus grand souci de ceux qui souffrent. C'est ça, parce qu'on y est passé par cela.
Oui, voilà, quand on a vécu une expérience douloureuse, c'est vrai qu'on est plus sensibilisé.
Oui. Alors,
lorsqu'on voit le Christ sur la croix, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut voir aussi une défaite, hein, on peut voir un échec.
Oui, mais si tu t'arrêtes à la croix.
Voilà. Oui, mais il y a eu la résurrection.
Bien sûr que la croix est un échec. Bien sûr que la croix est un échec au moment de la croix. Mais la croix, c'est pas le dernier mot. La mort, c'est pas le dernier mot.
C'est ce que je voulais entendre dire.
La souffrance, c'est pas le dernier mot.
D'un mal est sorti un bien. Et c'est vrai que souvent, il arrive souvent... de certaines épreuves, d'un mal, donc, on peut tirer un bien.
Ah oui?
Oui.
Voilà.
Non, mais alors, c'est une question qui ne se veut pas provocatrice. quand on dit à certaines gens « Sois positif dans tes souffrances », j'ai entendu ça, offre-les au Seigneur, et ça, il s'en servira comme grâce à donner à ceux qui souffrent.
Oui, c'est là où je te dis, c'est des faux discours, parce que toi, est-ce que tu es capable de le faire? Moi, quand j'ai mal aux pieds, tu sais, j'ai pas envie d'aller...
Mais non, mais d'accord, mais ça, c'est la réaction animale. Mais si tu as la réaction du don, de l'amour, de ton prochain, tout ça, on peut l'imaginer quand même.
Moi, je pense que on peut communier aux souffrances de l'autre, tu vois, c'est ça. Mais offrir quelque chose... Mais tu offres quelque chose de beau, tu offres quelque chose de bon dans la
mais
vie.
Mais c'est bon, ça, de dire la souffrance, je ne peux pas l'éviter. Donc, ce qu'elle
mais
me coûte...
Mais c'est pas bon, la souffrance.
Mais non, mais justement, est-ce que ce n'est pas la transformer en quelque chose de positif que de l'offrir en ajoutant à celle de Christ?
Non, mais ce qu'il faut offrir, c'est le combat contre la souffrance.
Ah, mais bien sûr, mais d'abord. Mais
ce que je t'offre, c'est mon combat contre la souffrance.
Mais bien sûr, d'abord.
Hein, mais mon mal de tête, je me le garde.
Moi je me le garde pas. Je demande. S'il te plaît, si tu pouvais me soulager, ça me ferait quand même du bien. Je serais bien reconnaissante.
Oui, mais moi, je crois que, tu vois, enfin, c'est pas moi qui dis ça, j'ai pas assez souffert, je suis un peu comme Bernard, et j'ai eu quelques souffrances, mais pas trop graves. Mais, tu vois, c'est ce que dit ce prêtre qui a beaucoup souffert, et il dit surtout, sortons de ces beaux discours, de ces paroles lénifiantes, parce que la souffrance, c'est un combat difficile, dans lequel seul, je peux pas me sortir, et je peux être aidé. Donc, comme je te
dis... L'important, c'est l'accompagnement.
L'accompagnement et la compassion. Et la proximité. Et quand tu es, toi, dans la situation de souffrance, accepter la présence d'un autre. Tu vois ? Alors, si tu veux dire offrir ses souffrances au Christ, c'est-à-dire accepter qu'il soit à tes côtés pour souffrir avec toi, dans ce cas, je veux bien. Mais autrement, quand tu souffres, tu n'as rien à offrir.
Non, mais les questions qui sont posées, elles sont aussi pour les écoutants, pour nos auditeurs, parce qu'ils ne peuvent pas les poser. Alors, je suppose qu'il y en a quelques-uns qui ont envie de poser ces questions que nous posons tous.
Oui, mais je pense aussi. Voilà. Qu'est-ce que... Vous vouliez dire encore quelques mots sur la souffrance, Bernard ?
Non. Moi, je me place dans une situation... Tout le monde n'est pas croyant. Alors, ceux qui sont chrétiens... Ils croient à la résurrection. Ils disent, Jésus, bon, c'est le seul qui soit revenu de la mort, qui est sorti du tombeau, qui a rencontré ses disciples. Tout ça, si on est chrétien, on le croit. Ceux qui ne sont pas croyants, eux, ils ont que l'aide de la médecine et l'aide des aidants, des accompagnants. Ça, c'est fondamental. Et je crois que pour avoir... accompagner des gens qui étaient tout à fait au bord de la mort, je crois que ce soutien-là, c'est quelque chose d'important et qu'il faut diffuser. Voilà.
L'affirmation de la Bible selon laquelle l'amour est plus fort que la mort signifie que rien de ce qui aurait été mis en œuvre par l'amour pour défendre, pour construire l'homme, ne périra. Rien. C'est la mort qui sera engloutie, pas la vie. C'est la souffrance, c'est le mal qui seront vaincus, pas le bien.
Oui, mais faudrait pas qu'au travers de nos propos, on pense que finalement la religion n'amène pas plus que celui qui croit en rien. Si on arrive à... Il faut pas dépoussiérer non plus tout de ce qui nous a été... amené au travers des siècles par la religion.
Non, mais je te dis pas ça. Je te dis simplement que Dieu souffre avec toi. C'est tout. Désormais, pas une douleur humaine qui ne soit celle de Dieu. Pas une larme d'enfant qui ne soit pas une larme de Dieu. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre. Dieu est avec nous, il a tout connu de notre vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'il nous ouvre à l'espérance. Et c'est pour ça qu'il nous ouvre un avenir. Mais c'est pas toi qui, par ta souffrance, va sauver le monde, c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous introduit au bien. Tu vois?
C'est
Dieu, voilà. Donc, à partir de là, eh bien, toi, tu accueilles cette force de Dieu et cette puissance d'amour vulnérable de Dieu. Voilà. Alors, pour terminer, alors je ne sais pas, le thème de la prochaine émission, on va le choisir tout à l'heure, on ne l'a pas encore choisi.
On pourrait parler du bonheur,
on va voir. Pour l'instant, voilà, on va écouter la dernière chanson et on vous dit à bientôt. On était sur CFM CFM 90.2, c'était l'heure du carillon, et on vous dit au mois prochain.
À bientôt.
Et sur Radio Présence.
Voilà, à bientôt.
Elle apporte les témoignages du passé et puis d'aujourd'hui. Elle est en toi,
elle est en toi,
elle chante en toi,
elle chante en toi.
L'espérance, accueille-la,
accueille-la
et donne-la tout autour de toi,
tout autour de toi.
Comme une route que l'on suit jusqu'à l'arrivée, elle avance et malgré nos doutes nous conduit vers la liberté. Elle est en toi,
elle est en toi,
elle chante en toi,
elle chante en toi.
L'espérance, accueille-la,
accueille-la
et donne-la tout autour de toi,
tout autour de toi.
Comme une étoile que l'on voit briller dans la nuit, sa lumière enlève le voile de nos yeux, souvent obscurcis. Elle est en toi,
elle est en toi,
elle chante en toi,
elle chante en toi.
L'espérance, accueille-la,
accueille-la
et donne-la tout autour de toi,
tout autour de toi.
Comme une vigne où chacun de nous est serment, l'Évangile en donne le signe révélant.